Et avec Léa Salamé, nous recevons dans le grand entretien du 7-9 une ancienne ministre de la Justice, poste qu'elle a occupé pendant le quinquennat de François Hollande de 2012 à 2016. Nous l'avions reçue à ce micro pour la publication de son livre Nuit d'épines, publié aux éditions Plomb. Je salue Christiane Taubira, bonjour. Est-ce que vous êtes en ligne avec nous ce matin? Oui, vous l'étiez il y a quelques petites secondes.
Et je fais de même. Bonjour Nicolas Demorand,
ben
bonjour
voilà. Léa Salamé. Merci d'être en ligne sur Inter ce matin. Vous êtes en Guyane.
Oui, vous ne m'entendez pas, je viens de vous saluer de façon presque familière.
On a entendu la fin, on a entendu la fin et le ton.
Je suis à Cayenne, voilà. Précisément.
Et il est, si je ne m'abuse, 3h24 du matin. Chez vous. On sait votre passion pour la nuit, Christiane Taubira, vous y aviez consacré de très belles pages dans le livre que je mentionnais à l'instant, Nuit d'épines. Pour vous, la nuit, elle est résiliente et féconde. Alors, comment se passe le confinement en Guyane? Comment se passe-t-il pour vous, Christiane Taubira? Est-ce que ce long moment où le rythme de vie ralentit, où le silence revient, est-ce que vous l'assimilez à une nuit féconde et résiliente? Alors, dites-nous, à quoi ressemble ce moment particulier, à la fois en Guyane et pour vous en Guyane?
Alors d'abord, on réapprend à vivre, c'est le lot commun. Nous réapprenons à vivre, nous réapprenons à organiser l'articulation entre nos journées et nos nuits. Pour moi, parce que les nuits avaient pris quand même un peu le pas en termes d'importance, de sensualité, de promesses, les nuits avaient pris depuis très très longtemps le pas sur les jours. Et là maintenant, ce sont les jours qui font des incursions dans la nuit. Et j'ai dû apprendre à faire ça, c'est-à-dire j'ai dû apprendre à traîner aussi dans ma bibliothèque, y compris de jour, par exemple.
Est-ce que vous trouvez des vertus éthiques ou un sens existentiel à ce moment, à ce confinement? Certains disent que le confinement est un rendez-vous avec soi-même. Comment ce rendez-vous se passe-t-il pour vous?
Oui, je crois qu'il y a incontestablement des vertus éthiques et elles sont sans doute personnelles. Elles sont aussi profondément, essentiellement collectives. Alors oui, c'est un rendez-vous avec soi-même, mais pas nombriliste. S'il s'agit de se regarder, de s'admirer ou de trouver qu'on sait très bien affronter cette période difficile, c'est une espèce de valorisation de l'égoïsme qui envahissait déjà nos comportements et nos réflexes. Ce qui me paraît extrêmement important, c'est d'abord d'avoir conscience des autres, d'avoir constamment à l'esprit qu'il y a d'autres qui subissent les mêmes contraintes, les mêmes interdits, les mêmes obligations, les mêmes renoncements et qui les subissent dans des conditions souvent profondément différentes et très clairement inégalitaires. Donc si, en termes d'éthique personnelle, on est surtout en capacité de se rendre compte que même ceux qui nous exaspèrent, moi j'ai eu du mal par exemple à cesser de faire du vélo tous les jours. Donc, je me suis remise au vélo elliptique. Mais si, au lieu de me dire, mais il y a des personnes qui n'ont même pas de vélo elliptique, je me dis, comme c'est dur et comme c'est difficile, et puis mon jardin, ça ne défile pas assez, c'est un paysage un peu immobile. Évidemment, là, c'est une éthique très, très nombriliste qui est absolument sans intérêt. Par contre, je crois que ce qu'il y a de puissant dans ce moment, c'est la présence permanente des autres, indépendamment de cette dimension un peu déprimante des journaux qui, toute la journée, nous répètent des informations déprimantes en soi, mais nous répètent évidemment toutes les consignes que nous devons respecter. Indépendamment de cela, il y a quelque chose qui fait que la présence des autres est là. Et surtout lorsqu'elle n'est pas là physiquement, elle est là. Et ça change un certain nombre d'habitudes. Chez moi, par exemple, ça a changé mon rapport au téléphone. Je téléphonais jamais à personne, même si on m'appelait toute la journée. Là, je prends le temps d'appeler des amis, de prendre de leurs nouvelles. Prends le temps de répondre parfois.
Vous avez appris à être patiente?
Ça, c'est un apprentissage qui, à mon avis, malheureusement, n'est pas pérenne chez moi,
C'est foutu, quoi.
Et je ne vais rien faire pour le rendre pérenne.
Emmanuel Macron va parler ce soir à la télévision. Il avait employé à 6 reprises lors de sa précédente allocution le mot « guerre ». « Nous sommes en guerre », avait-il dit très fréquemment. Ce mot, ce registre, vous semble-t-il les bons, Christiane Taubira?
Sincèrement, non. Ceci étant, je n'ai pas envie de sombrer dans la facilité et de dire que le président s'est trompé de registre. Il a probablement intentionnellement voulu secouer les consciences et bousculer les comportements. Ceci étant, je pense que peut-être que là, même si ça paraît facile, je pense très sincèrement que des femmes en situation d'autorité et de pouvoir auraient abordé les choses différemment. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir recours à ce corpus viril, martial, sans doute qu'elles auraient vu plus facilement que ce qui fait tenir la société, c'est d'abord une bande de femmes. Parce que les femmes sont majoritaires dans les équipes soignantes, même si nous saluons aussi avec autant de gratitude les hommes, parce que les femmes sont majoritaires aux caisses des supermarchés, parce que les femmes sont majoritaires dans les équipes qui nettoient les établissements qui travaillent encore, donc, et qu'elles sont souvent majoritaires dans la fonction publique qui tient encore. Donc tout ce qui tient la société, tout ce qui nous permet d'envisager, c'est-à-dire d'inscrire une temporalité dans nos têtes, d'envisager un après, de nous projeter, donc de ne pas sombrer dans la désespérance, tout cela, ce sont les femmes qui le font, et elles le font parce que depuis longtemps, presque depuis toujours, ce sont les femmes qui portent les métiers de soins. Le soin en général, hein, dans sa conception la plus large.
Et pourtant, ceux qui sont aux manettes sont souvent des hommes. On le voit, en tout cas en France, au gouvernement, les ministres mis en valeur, ce sont les hommes. Aujourd'hui, ceux qui tiennent les manettes, la plupart des médecins interrogés, ce sont des hommes également. Et on doit balayer devant notre porte, nous, les médias. Ceux qu'on entend, qui sont peut-être pas ceux qui font, sont les hommes.
Ben oui, mais c'est un peu l'intérêt de cet effet de loupe de l'instant. Il ne s'agit pas de révoquer les hommes, parce que dans l'état, dans l'instant que nous vivons, et jusqu'au bout de cette épreuve collective, qui est terrible, qui n'est pas une crise, qui est vraiment une épreuve collective terrible en soi, jusqu'au bout, il faut qu'on ait l'unité de commandement nécessaire. Il faut qu'on ait ces headquarters, ces quartiers généraux, où l'ensemble des informations fiables, de première main, puissent arriver, puissent être analysées. Donc il faut admettre cela pour l'instant. Mais c'est un effet de loupe tout à fait intéressant et qui doit interroger la société, qui doit interroger le pouvoir dans sa nature et dans sa masculinité et dans ses projections viriles, qui doit nous interroger, nous, parce que la source du pouvoir, c'est nous, nous sommes encore une démocratie, qui doit nous interroger aussi sur l'impact du regard sur la société selon que la culture masculine est dominante ou que la culture féminine. Et vous entendez que je parle bien de culture, hein, ça n'est pas une affaire biologique, ça n'est pas une affaire génétique, ça n'est pas une affaire de genre, c'est une affaire de culture historique, c'est-à-dire de rapport à la domination, de rapport à l'autre, de rapport à l'oppression, de rapport à la vie, de rapport à la mort, de rapport à la socialité, de rapport à l'injustice. C'est de ça qu'il s'agit. Et évidemment, le patrimoine, le corpus culturel des femmes, historiquement, est différent dans ces rapports-là que celui des hommes qui ont été dans des positions de génération en génération, des positions de domination.
Christiane Taubira, votre livre racontait les nuits terribles, les circonstances exceptionnelles auxquelles vous aviez été confrontée lors des attentats des terrasses de Paris et du Bataclan. Est-ce que ça change un homme ou une femme ? Est-ce que ça change un homme ou une femme de devoir prendre des décisions fortes, inédites, dans un tel moment marqué par le risque de la mort ?
Oui, indiscutablement. Indiscutablement. Ça change et il faut consentir à changer. Il faut accepter d'être habité à la fois par le doute, par l'incertitude et par une haute idée de la responsabilité. Il faut accepter de ne pas être infaillible. Il faut accepter aussi de devoir se dévouer complètement aux autres. Donc c'est une responsabilité extrêmement lourde parce qu'en ces circonstances-là, on se rend compte de la nature du pouvoir et de la nature profonde du pouvoir, c'est que le pouvoir est exorbitant. Il est exorbitant essentiellement, c'est-à-dire qu'il est abusif par nature puisqu'il vous conduit à prendre des décisions dont les conséquences vont peser sur la vie des autres. Donc dans ces moments-là, oui, on est conscient et on doit accepter ce trouble, on doit accepter cette bousculade intérieure, on doit accepter ce malaise et ce mal-être qui fait qu'on se dit « je suis là » en situation de devoir prendre la meilleure décision. Or, je ne suis pas infaillible. Comment je rassemble mes connaissances, mon savoir, mes ressources autour de moi, toutes celles et tous ceux qui contribuent à éclairer, à faire remonter l'information, à l'analyser, à la décortiquer, comment je fais ça au mieux pour prendre la meilleure décision pour les autres? Et comme on n'est pas insensible, évidemment, on est en plus dans un moment de fragilité parce que on est aussi vulnérable que les autres, même si on a un devoir de force et de résistance.
Sur ce point, Christiane Taubira, question à l'ancienne ministre de la Justice. L'état d'urgence sanitaire a été déclaré. Dans Nuit d'Épine, vous reveniez sur les risques inhérents à ces dispositifs d'exception. Protéger, je vous cite, protéger car on ignore ce qui pourrait advenir après. Et je continue, sans perdre de vue cependant que les démocraties ne savent guère comment rétablir les droits qu'elles ont été amenées à rogner. Pensez-vous, Christiane Taubira, qu'il sera très compliqué de sortir de l'état d'urgence sanitaire? Êtes-vous inquiète pour les libertés quand on reviendra à la normale?
Je suis profondément persuadée que ce sera très compliqué. Très compliqué parce que c'est un débat qui va traverser le pouvoir lui-même. Comment on en sort? Est-ce qu'on en sort d'un coup avec les risques que ça suppose? Est-ce qu'on en sort en sifflet, comme on dit, mais en sachant que à quel moment on arrête quand même le sifflet? Donc, ça va être très difficile. Et incontestablement, tout état d'urgence, sanitaire ou pas, sanitaire, ça a été atténué, c'est tout. Mais objectivement, cet état d'urgence, c'est un état de privation quasi absolue de libertés individuelles et de libertés publiques. Nous y consentons. Et nous avons raison d'y consentir parce que non seulement pour nous-mêmes, et c'est pas vraiment le plus glorieux, mais nous y consentons pour les autres. C'est-à-dire qu'il s'agit de ne pas faire périr les autres, ne pas mettre les autres en danger, et surtout de ne pas rendre impossible la tâche gigantesque, titanesque, surhumaine des soignantes et des soignants. Donc oui, c'est nous y consentons, mais non, les démocraties savent de moins en moins, et parce que les responsables politiques ont de moins en moins de courage, il est de plus en plus difficile de revenir sur les privations de liberté, parce qu'il y a toujours une personne, il y a toujours une voix, il y a toujours un courant qui va se mettre à hurler lorsque on va rétablir les libertés en disant que on rétablit des risques. Et comme les hommes politiques ont appris à ne pas affronter des opinions publiques critiques, il est de plus en plus difficile. Mais ça veut dire que la réponse, elle est entre nos mains. C'est à nous de faire mûrir nos démocraties. Et si nous sortons de cette épreuve terrible où nous perdons du monde, où nous perdons des amis, où nous perdons des parents, et où nous les perdons dans les conditions les plus terribles, parce que nous ne sommes pas en situation de passer ensemble autour de la personne qui s'en est allée, de passer ensemble un moment d'apaisement, un moment de larmes, de chagrin, mais aussi de joie, de souvenirs. C'est un rituel qui est interdit en ce moment. Donc, si nous sacrifions cela, qui est un sacrifice terrible, et si nous le sacrifions à une petite routine en sortant de là, ben nous aurons juste été misérables, tapons, peureux, reclus chez nous pour ne pas tomber malade ou ne pas crever, mais pas grands comme nous devrions être capable de l'être en cette circonstance.
Christiane Taubira, encore deux questions à l'ex-garde des Sceaux que vous êtes avant d'écouter les auditeurs. D'abord, évidemment, la question du traçage des individus est dans le débat public. Il s'agit de distinguer qui est potentiellement malade et qui ne l'est pas, qui croise qui grâce à notre téléphone portable. Si vous aviez été consulté comme garde des Sceaux, vous auriez dit quoi sur le tracking numérique, Christiane Taubira?
Alors, j'aurais dit que la finalité est concevable parce que il est facile d'imaginer que lorsque on sera persuadé à partir des indicateurs que les choses sont rentrées dans l'ordre, que le virus a beaucoup reculé, etc., nous allons tous, les gens raisonnables, être dans la crainte d'une réplique. Donc la finalité se conçoit parfaitement. Maintenant, il faut toujours être extrêmement prudent. Alors, j'ai entendu toutes les explications techniques et presque un peu philosophiques sur cela. Moi, j'ai des inquiétudes, effectivement, sur tout traçage, quel qu'il soit. Et en Europe, ces inquiétudes sont plus fortes peut-être encore qu'ailleurs, compte tenu de l'histoire récente de l'Europe sur les fichiers, sur la façon de stocker des informations et d'identifier des individus et de prendre le risque qu'un mauvais usage et un usage létal, lors de la Deuxième Guerre mondiale puissent en être faits. Donc, sur les finalités, cela se conçoit que on puisse craindre un effet boomerang à partir du moment où nous allons tous reprendre nos activités habituelles. Maintenant, il faut un maximum de garanties. Et la France a des structures qui peuvent apporter des garanties. Après, il faut que les gens eux-mêmes soient suffisamment indépendants, autonomes et courageux, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte que leur suggestion S-U-J-E-T-I-O-N, est vis-à-vis des citoyennes et des citoyens et pas vis-à-vis du pouvoir, pas vis-à-vis du gouvernement. Autrement dit, que le Conseil d'État fasse son travail, que toutes les administrations indépendantes fassent leur travail, que ce soit la CNIL, que ce soit le défenseur des droits, que chacun fasse son travail comme il le fait d'ailleurs couramment, mais le fasse avec plus de vigilance encore dans ces circonstances-là, n'hésite pas à interpeller, n'hésite pas à rendre public, et quel que soit le tonnerre que ça puisse soulever. Donc oui, pour la finalité, il faut qu'on arrive à faire en sorte que la réactivité soit la plus rapide et la plus forte et la plus efficace possible, mais non à la moindre, au moindre grignotage de liberté. Pour ce que vous venez de rappeler, c'est que les démocraties ne savent pas rétablir les libertés qu'elles grignotent. Mmh.
Toujours à l'ancienne garde des Sceaux, cette question sur les prisons et la grande inquiétude que l'épidémie y fasse des ravages. Nicole Belloubet a déjà libéré 8000 détenus en un mois. La contrôleure générale des lieux de privation de liberté a appelé le gouvernement à en libérer 7000 de plus, 7000 détenus supplémentaires en fin de peine. Faut-il, Christiane Taubira, pousser plus loin la libération des détenus pour raisons sanitaires?
La question de la santé est évidente, c'est-à-dire que le risque est grand, le risque est grand. Et il est grand sur les personnes qui sont détenues, il est grand sur les personnels pénitentiaires, il est grand sur les conseillères et conseillers et sur les magistrats aussi, notamment les juges d'application des peines. Donc le risque est grand, il est réel. Il faut s'interroger sur le sens de la prison. Est-ce que libérer des personnes en fin de peine 2 mois ou 6 mois plus tôt, est-ce que c'est dramatique? Je répète que c'est pas fait aveuglément. Les dossiers sont étudiés, ça fait une charge de travail, aussi bien pour les personnels pénitentiaires que pour les juges d'application des peines. Donc, est-ce que c'est dramatique en termes de sens de la peine, de l'efficacité de la peine, de ce que ça représente pour notre socialité actuelle? Est-ce que c'est dramatique de libérer ces personnes-là, ou est-ce que ça n'est pas plus dramatique de prendre le risque que ces lieux fermés deviennent des foyers explosifs de diffusion du virus? Il faut s'interroger, il faut s'interroger au-delà de l'hystérie qui occupe des esprits en temps normal. On n'est pas dans un temps normal et il faut savoir prendre un certain nombre de décisions moralement, éthiquement, à la fois courageuses et justifiées.
Allez, on ouvre le dialogue avec les auditeurs de France Inter. Bonjour Marc.
Bonjour madame. Samedi, dans le Figaro, le président du MEDEF a dit « la reprise, c'est maintenant. J'appelle les entreprises à reprendre leur activité sans attendre le déconfinement ». C'est-à-dire qu'il appelle les entreprises à ruiner les effets du confinement et à relancer l'épidémie, pour moi en tout cas, parce qu'il n'y a toujours pas de protection. Les gens vont prendre les transports, vont travailler proches les uns des autres, et tout ça va relancer l'épidémie. Est-ce que vous trouvez ça normal que le président du MEDEF ruine les efforts de toute la nation pour juguler cette épidémie qui est dramatique?
Merci voilà. Marc, merci Marc pour cette question. Christiane Taubira vous répond depuis la Guyane.
Oui, merci Marc. C'est une question extrêmement importante parce qu'elle rappelle où sont les lieux de pouvoir et qui peut faire autorité. Donc, que le président du MEDEF soit inquiet de l'état du tissu économique et de la dégradation qui risque de se poursuivre, cela se conçoit, il est dans son rôle. Qu'il se souvienne qu'il a des partenaires sociaux et que les personnels ont des représentants, cela me paraît, je pense que c'est son cas, mais si ça ne l'est pas, c'est bien de le lui rappeler. Mais en tout état de cause, on se rend compte d'une chose, c'est qu'il y a de vieux réflexes qui sont là, alors qu'on ne va pas sortir de cette épreuve dans l'état où on y est entré. Donc ces vieux réflexes qui consistent à dire la vie des gens, leur sécurité, leur santé, leurs conditions de vie, tout ça, c'est hors champ. Ce qui compte, c'est la productivité, la rentabilité, les cadences, etc. Non, ça, c'est terminé. Ça, c'est terminé. Et les gens l'ont bien compris. Ce que les gens traversent là, ils comprennent bien. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y aura encore un rapport de force. Et on entend bien les discours officiels qui montrent une très grande inquiétude sur l'économie. Bien entendu, on ne pourra pas vivre sans économie. Mais on ne peut pas vivre sans les gens. On ne peut pas vivre sans les soignants. On ne peut pas vivre sans les caissières. On ne peut pas vivre sans les éboueurs. Donc, il nous faut voir comment on fait en sorte que, oui, notre économie, on a bien vu ses fragilités, on a bien vu ses imbécilités même, c'est-à-dire des délocalisations qui nous ont démunis et qui ont donc différé notre capacité de réponse d'une semaine, de deux semaines, peut-être de trois semaines. Mais pendant ces trois semaines, des gens sont morts, des personnes sont mortes. Donc, cette économie, elle ne peut pas être la référence absolue. Elle ne peut pas être une divinité, elle n'est pas un veau d'or. Et nous devons avoir le courage de nous interroger. Et la pratique même interroge. Donc, on ne peut pas juste dans le comportement et dans les décisions, comme pour les 3% de déficit, comme pour les 65% d'endettement, on ne peut pas dans la pratique se rendre compte que les anciens schémas ne fonctionnent pas et conserver un discours sur les anciens schémas.
Oui, Christiane Taubira, l'économie, ce n'est pas que le MEDEF, c'est aussi les très petites entreprises. Vous disiez, on ne peut pas vivre sans les soignants et on ne peut pas vivre sans les humains. C'est vrai, on ne peut pas vivre aussi sans les très petites entreprises, sans les commerces, sans les restaurateurs.
On ne peut pas vivre sans les boulangères.
Voilà.
Sans les boulangères.
Oui, les commerces, les restaurateurs, les TPE qui risquent de ne plus pouvoir rouvrir et qui risquent de faire faillite. La question plus large, au-delà de celle posée par l'auditeur sur le MEDEF, c'est de savoir si l'impératif économique, si l'inquiétude sociale doivent maintenant, après un mois de confinement, être prises en compte ou que seul compte l'impératif sanitaire.
Non, mais l'impératif social, il est pris en compte. L'impératif social, c'est qu'il y a des personnes qui sont angoissées parce qu'elles n'auront pas de revenus. Alors, bien entendu qu'il y a le chômage partiel, mais le chômage partiel, ça va concerner, et c'est tant mieux, je n'introduis aucune nuance là-dessus. Je veux juste dire qu'il y a des personnes qui sont hors du champ. Il y a des personnes qui se débrouillent avec des jobs au quotidien, et ça n'est pas qu'en Afrique, ça. C'est pas de l'économie informelle, mais il y a des personnes qui ont des revenus précaires, qui ont des revenus instables. Il y a des tas de situations de grande vulnérabilité. Donc, mais bien sûr, l'économie, mais moi, l'économie, c'est un champ qui m'est familier. Donc, je ne suis pas en train de dire que l'économie ne compte pas, mais je dis que nous saouler avec les bourses qui dévissent, nous expliquer que les pays vont réussir à se réunir pour maintenir la production du pétrole, pour éviter que les prix continuent à baisser. Alors que les pays n'ont pas été en mesure de se réunir pour monter une politique internationale globale de lutte contre la pandémie, à l'exception de l'OMS qui a été présente, heureusement présente. C'est une démonstration éblouissante de du multilatéralisme. C'est-à-dire que l'OMS a été, en diffusant des préconisations, des analyses, des informations, a permis à pratiquement tous les pays d'être au même niveau d'information. Donc, on voit un effet positif du multilatéralisme. Mais pour le reste, non. Donc, voilà, moi, je dis simplement que l'économie, c'est important, mais ça ne peut pas être l'économie de la violence internationale qu'on connaît. Ça ne peut pas être que la grosse économie qui écrabouille. Ça doit être une économie devenue plus humaine.
Émile est au standard. Bonjour et bienvenue, Émile.
Bonjour.
On vous écoute.
Merci de prendre mon message. D'abord, je voudrais avoir une pensée pour celles et ceux qui sont partis, et certains de mes amis d'ailleurs. Et à partir de là, saluer le courage politique de Madame Taubira et tout ce qu'elle vient de nous dire aujourd'hui. Je suis un auditeur de cette antenne depuis plus de 50 ans. J'ai entendu au début de l'épidémie spéculer ici sur la capacité de l'économie chinoise et les risques de destruction de ce pays et les risques de ses dirigeants, comme si nos économies étaient préservées, et nous voyons bien aujourd'hui que nous sommes face à cette épreuve. Face à cette épreuve, nos dirigeants ont failli.
Dites-nous, accélérez un petit peu, Émile, s'il vous plaît. Je suis navré.
Oui, oui.
Je suis navré, mais le temps presse.
D'accord, par l'oubli de l'expérience du Stras, par leur responsabilité sur la destruction de l'économie et des services publics, par le refus de prendre leurs responsabilités en se cachant derrière des experts. Il en faut des experts.
Votre question, Émile, s'il vous plaît.
On en parle beaucoup, on parle beaucoup de la sortie de crise, et comme ils sont faillis, il faut les changer. Madame Taubira, est-ce que vous êtes prête à vous engager pour que nous changions les dirigeants de ce pays, qui nous ont conduit à cette catastrophe.
Merci Émile. Je précise, Christiane Taubira, que des questions sur ce thème-là, de votre avenir dans le monde d'après, il y en a énormément. Donc je vous les livre en un seul paquet.
Vous me faites le coup à tous les coups. Merci Émile.
Ah bah, écoutez, ce sont merci les Emile. Auditeurs.
Et pas de langue de
merci
bois.
Merci Émile et merci. Merci aux autres pour votre confiance. Moi, je suis évidemment touchée par cette confiance. Qui m'est adressée. Simplement, je pense que vraiment, il faut d'abord clarifier nos idées. Il faut clarifier nos idées. Il faut des doctrines pour sortir de là de façon efficace. Il faut une doctrine sur les services publics. C'est essentiel. Il faut que le président a dit dans sa première allocution, il a dit que tout ne relève pas du marché. Magnifique découverte, mais ça ne peut pas être une phrase. Donc qu'est-ce qu'on va faire? La politique fiscale, est-ce qu'elle va continuer à être une politique de niche qui va servir surtout à trouver des échappées et des escapades pour ceux qui ne veulent pas contribuer à l'effort commun? La question de veiller à ce que chacun puisse vivre décemment, qui est aussi la question du revenu universel, ce sont des questions que nous devons explorer, retourner dans tous les sens pour les rendre efficaces et acceptables socialement et moralement. Donc je suis prête à donner de mes forces, mais en ce moment, mes forces, c'est surtout contribuer à la réflexion, et malheureusement, je vois bien que la réflexion n'est pas suffisamment musclée, qu'elle n'est pas suffisamment féconde, qu'elle n'est pas suffisamment audacieuse, qu'elle n'est pas suffisamment volontariste, et pour moi, c'est une vraie difficulté. Je répète, je l'ai dit 100 000 fois, je ne crois pas aux grandes destinées individuelles, donc je suis sensible à la confiance qu'on me fait, mais... Je crois que c'est ensemble que nous devons transformer, bouleverser notre société.
Merci beaucoup, Christiane Taubira, d'avoir été...
Vous m'avez assez entendu.
Non, malheureusement, non, mais le temps est compté, malheureusement. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Il est maintenant 3h50 du matin en Guyane.
On vous laisse dormir.
Vous m'avez gâché ma nuit, vous avez coupé, j'ai aucune chance de dormir.
Alors, bonne lecture.
Faut pas m'échauffer à 3h du matin.
Bonne lecture, il est 8h50, la revue de presse arrive.